Régis de Fagan eut à son retour à Paris la plus cruelle déconvenue en trouvant closes toutes les persiennes du rez-de-chaussée et le jardin vide. Pauline Hulin était partie emmenant son monde sans qu'Antime, témoin pourtant de ce départ, pût donner à son maître la moindre indication. Annette, la femme de chambre, lui avait dit « Nous filons. Où donc ça ? Au Havre. » Et pas d'autres renseignements. Fagan ne pouvait y croire. Le Havre. Mais que serait-elle allée faire au Havre puisque son mari habitait là ? Mais il est venu, le mari, objectait ce bon jobard d'Antime. Même qu'Annette croyait que c'était pour emmener le petit garçon. Puis ça est allé tout seul, et madame, 2 jours après. Que supposer ? Dans son angoisse, Fagan passa tous ses premiers jours sans sortir, avec l'attente d'une lettre ou le vague espoir qu'en ouvrant sa fenêtre un matin, il apercevrait le petit Maurice dans le jardin, les yeux levés vers la chambre de son ami. Mais non, toujours déserte des jeux de l'enfant, la pelouse lui semblait plus grande chaque fois. Et dans l'allée circulaire, cette allée où sa chère Pauline et lui avaient promené tant de douces causeries sans fin, de pousses vertes pointaient du sable, sentant le départ et l'abandon. Une fois cependant, à la brusque et prompte façon dont son domestique entra dans la chambre, Régis eut un coup au cœur. Il crut qu'Antime lui apportait des nouvelles. « Non, monsieur, mais voilà quelque chose de bien plus drôle. Les journaux de ce matin qui racontent que monsieur est devenu fou. » Cela dit, avec l'accent très spécial de mauvaise humeur dont il parlait à Fagan de ses pièces qui ne réussissaient pas, le domestique ouvrit grand les rideaux des fenêtres et tendit à son maître l'entrefilet reproduit dans les 2 feuilles les plus lues de Paris. On y annonçait, en termes presque identiques, qu'à la suite de fièvres paludéennes prises en Corse, le célèbre écrivain dramatique Régis de Fagan venait d'être frappé d'aliénation mentale. C'est dans un bal à Ajaccio que les premiers symptômes se seraient déclarés. « Oh, la garce !» cria Régis. Il avait reconnu la touche et l'invention de sa femme. Et tout de suite, exaspéré, donnant à Antime une série d'ordres contradictoires et d'un ton de brutalité qui ne lui était pas habituel, il surprit dans les yeux effarés du pauvre garçon cette pensée très nette. « Est-ce que vraiment monsieur serait devenu fou ?» Ce lui fut une prompte leçon, ce regard de domestique, et qui décida de son attitude devant le public. Cédant à sa nature emportée, il fut allé demander une rectification aux journaux, furieux, la canne haute, de façon à justifier l'abomination imprimée. Il ne fallait pas exagérer non plus le calme, l'indifférence, dont on ne manquerait pas de faire un état comateux. Aux 2 journaux, quand il se présenta, on lui fit de plates excuses. La nouvelle leur avait été envoyée par câble d'Ajaccio même. Une rectification paraîtrait dès le lendemain, et pour peu qu'il le désirât, l'enquête serait facile à faire. Une enquête, à quoi bon ? Ce serait attacher trop d'importance à une gaminerie, à une mystification. Et dans les bureaux du journal, on répétait ces mots autour de lui, gaminerie, mystification, en le scrutant jusqu'au fond des yeux, en auscultant sa parole et ses gestes. Ah, la gueuse s'y entendait empoisonner son monde. Contre toute autre calomnie, on pouvait se défendre, produire des preuves, mais celle-là. Tout le jour, Fagan se montra au boulevard, soulevant une curiosité étonnée, qu'il circula, qu'il fût dehors, au soleil des libres et des vivants. Il avait donc pu s'échapper. À son cercle, on lui fit un accueil trop cordial, trop empressé, comme un ami qu'on n'espérait presque plus revoir. Il dîna, eut de l'esprit, promit une pièce pour la prochaine fête annuelle. Puis ayant passé sa soirée dans deux ou trois foyers de théâtre, il revint au cercle, à l'heure où le jeune gommeux, émule du baron Houchouze, y cherche leur matériel et s'assit jusqu'au matin à une table de jeu pour bien prouver qu'il n'était pas fou. Rentré chez lui, il ouvrit sa fenêtre sur le jardin. Le jour venait. En haut du grand bouquet d'ormes à peine visible, un merle sifflait dans la brume, où la pointe effilée de son bec semblait tracer les arabesques de sa chanson. Fagan songea longtemps, pénétré d'une tristesse, d'une défaillance. Ce pari qu'il avait battu tout le jour, comme il s'y était senti seul, tant de visages d'hommes et de femmes, et pas un être à lui là-dedans. Était-ce donc cet infini découragement ou le brouillard du matin dont le drap fin de son habit s'imprégnait? Il grelottait, refermait la fenêtre, souffrant d'un malaise inexplicable qui, loin de l'affaisser dans son besoin de repos et de sommeil, surexcitait son cerveau, lui faisait commencer une longue lettre à sa fille aînée, le seul cœur où il pût s'épancher, se reprendre au goût de la vie. Je ne veux pas, ma rose aimée, te laisser plus d'un jour sur l'horrible nouvelle que les journaux ont dû vous apporter. Non, grâce à Dieu, ni folie ni menace de folie. Ton père est tel que tu l'as toujours connu, l'esprit libre, les yeux clairs, une pièce en train et d'autres en rumeur dans sa tête. J'en suis pour un jour et une nuit perdue, passé à me montrer au palais à Paris de toutes les heures et de tous les endroits, à faire la preuve de mon équilibre d'esprit. Les journaux rectifieront ce matin et demain on n'en parlera plus. L'erreur de ceux qui ont essayé de me noyer dans cette perfidie a été de croire possible en ce temps-ci, avec une personnalité répandue comme la mienne, l'aventure du malheureux Sandon, cet avocat qu'on a fait passer pour fou sous le Second Empire et qui fut séquestré 10 ans. Ah, si j'avais voulu me venger, faire suivre l'enquête qu'on me proposait, quel piège pour ces méchants et ces imbéciles. Mais ça prend trop de temps, la haine. J'ai donné toute ma vie au travail et c'est une grâce, vois-tu. Je suis si seul. Je n'ai même plus ce voisinage qui jusqu'ici m'épargnait le navrement de la maison vide. Madame Hulin est partie, enlevant son enfant, sans doute pour échapper aux effets de l'inique loi qui le réclamait, qui voulait le rendre père. Ce conseiller de Malville est pourtant un honnête homme. Comment l'idée a-t-elle pu lui venir à lui et à ses assesseurs, lorsqu'ils ont prononcé le jugement de séparation, d'y joindre cette clause épouvantable qu'à l'âge de 10 ans et jusqu'à la fin de ses études, l'enfant serait sous la direction paternelle. Quelle perspective pour la pauvre femme! Penser qu'on pouvait mettre son petit infirme pensionnaire dans quelque lycée lointain, choisir des institutions spéciales très rigides, à l'abri de la surveillance et des gâteries de la mère. Qui sait même si on lui le prêtre ne recouvrait pas des instincts de méchanceté et de révolte nécessitant son internement à Maitret, dans ce bagne qu'on appelle la maison de famille, ou encore son entrée à l'école des Mousses, et alors le départ, l'exil. Pauvre madame Hulin, comme je comprends qu'elle l'ait emporté son enfant, qu'elle l'ait terré dans quelque trou. En attendant, me voilà privé d'une délicate amitié de femme qui me devenait chaque jour plus précieuse. Jusqu'à Maurice, dont l'affectueux babillage m'amusait. Avec sa précocité de petit malade, ses câlineries, sa grâce de fillette, il me rappelait toi à cet âge-là. Les jours où, toussant un peu, tu gardais la maison et venais lire auprès de ma table. Ta fierté de m'apporter de gros livres trop lourds qui t'entraînaient, de m'aider à travailler en me tendant un crayon, une boîte de plumes. Et Ninette, te souviens-tu? Quand, assise sur le tapis, pas plus haute qu'un chou, elle rangeait la bibliothèque de papa, laissant mes livres tout par travers, les titres en bas, les auteurs confondus, dépareillés, dans un fouillis attendrissant que je faisais respecter par Antime. Eh bien, ces niaiseries divines, ces souvenirs gardés dans un coin de mon cœur, la voix de ce petit Maurice en était comme l'écho. Je n'aurais jamais cru qu'il me manquerait à ce point. Signe de vieillesse, ma chérie, eh oui, de vieillesse. Je vais sur mes 45 ans, l'âge où physiquement l'homme ne vit plus de ses rentes, commence à attaquer son capital de jours et de santé. Les forces ne se renouvellent plus. Chaque chagrin creuse sa ride, chaque émotion émoussée défend la force nerveuse. C'est triste, ma mignonne, mais le meilleur de mon existence est fait. Mes plus grands succès acquis. Ce ne sera plus maintenant que le déclin des forces et des chances, et derrière moi, la talonnade d'une jeunesse férocement pressée et gloutonne. Ah, on est vite passé vieille bête de nos jours. Et quand on est la vieille bête, n'avoir ni foyer ni famille, c'est dur. À l'heure où je t'écris, tout brisé de ma nuit au cercle, ce jardin au petit jour dans le brouillard, si tu savais que mon home me semble triste, et que ce serait bon du sommeil aimé dans la pièce voisine, du sommeil de femme et d'enfant qu'on craindrait de déranger en marchant trop fort. Rien, personne, pas même au-dessous. Tu me diras que je les ai eus, ce foyer, cette famille, et que je n'ai pas su les conserver. Mais à qui la faute? Jamais je ne me suis plaint. Jamais je ne t'ai rien dit contre ta mère, qui n'a pas gardé la même réserve. Il faudra bien pourtant que tu saches comment je me suis sacrifié, et qu'il n'est pas équitable, quoi qu'on en ait pensé un juge idiot, que je reste seul, toujours seul, lorsque ma femme... Ah, mon Dieu, je te parle des magistrats. Sur un ton, ma grande Rose, à toi qui vas en épouser un, hein, et de fort bonne tournure, autant qu'il m'a paru la nuit du Mardi Gras, dans vos salons officiels. Le père, dont j'ai eu la visite avant-hier, m'a plu aussi beaucoup. Un gros homme, point trop majestueux pour un président, de l'esprit, les yeux financiers, une longue barbe blanche qui scandalise fort le palais, et des opinions démocratiques auxquelles il doit son extraordinaire avancement. Pas le sou, par exemple. Il est heureux que j'aie songé depuis longtemps à la dot de ma grande Rose. Sans entrer dans le menu des affaires, je peux te dire que je ne t'abandonne les revenus de mes deux plus fructueux succès. Les Jardins enchantés à l'Opéra Comique et Monsieur et Madame Dacier à la Comédie Française. Au bas mot, 20 000 francs par an. Le père de ton Gaston a semblé satisfait. Je lui ai montré l'album où j'ai ton portrait, celui de ta sœur, à différents âges. Il en était ravi, et déjà parle de Ninette pour son cadet et qui prépare Saint-Cyr. Sois donc tout à fait heureuse, l'affaire est conclue, à moins qu'on m'apprenne chez Garin de Malville, avec qui j'ai rendez-vous, que M. Raymond Ripert est un échappé de Nouméa, bombardé président pour services exceptionnels. J'aurais dû commencer par me renseigner, mais ce Malville, le seul magistrat de la Cour de Paris que je connaisse, organise à Lille un grand festival wagnérien dont il ne reviendra que dans quelques jours. Et alors, tout convenu, mes enfants mariés le plus tôt possible, je leur parlerai d'un projet, d'un rêve qui me hante. Au fait, pourquoi ne pas te le dire tout de suite, à condition de garder la chose entre nous, si elle te semble irréalisable? Que penserais-tu d'habiter Versailles tous les trois? La nomination de Gaston et Maury n'est, paraît-il, qu'une affaire de semaine, le temps de vous marier et de louer, non loin du parc, un délicieux hôtel, 2 étages entre cour et jardin. Je m'installe au second. Vous au premier, chacun chez soi, cuisine à part, avec faculté de manger ensemble dans la grande salle du bas. Vois-tu l'heureuse vie pour moi? Ma fille là, tout près, entendre son pas, son rire, racheter tant de mauvais jours passés loin d'elle. Et pour vous, ce serait si commode. Pas gênant, le pauvre père. On veut l'avoir, toc, toc au plafond. Il se sent de trop, vite il remonte. Et quand bébé viendra, quel agrément les soirs vous voudrez sortir. Qui garde et surveille la maison, l'enfant, les gens, grand-père. Et pendant ce temps, loin des gêneurs, des emprunteurs, loin des acteurs en quémande d'un rôle, des directeurs qui hâtent et enfiévrent l'œuvre en train, l'heureux grand-père travaille dans le silence, dans la sécurité, pour gagner la dot de Ninette. Non, j'aurais jamais eu tant de joie, et connaissant ton cœur de brave fille, je crois que tu serais heureuse par contre-coup. » À la lettre de son père, courrier par courrier, Rose de Fagan répondait: « Nous avons été bien ravis, mon cher père, d'apprendre cette méprise des journaux et que tu n'as jamais été cérébralement malade. Mais laisse ta grande fille te gronder un peu et conviens avec elle que si ta raison reste intacte, ta conduite n'est pas toujours d'un homme sérieux. Ton apparition à la préfecture la nuit du mardi gras avec ces jeunes gens blessait les convenances, avoue-le. Et maman et cousin, que tu mettais dans une situation si gênante, avaient de quoi t'en vouloir. Pardonne-moi de te le dire, à ton âge, c'est mener ta vie un peu trop comme un vaudeville. Le mot est de Gaston, qui t'aime pourtant de tout son cœur et fait grand cas de ton théâtre. Mais là, vraiment, t'en allais courir les rues en masque avec ce petit rouge-chouse, pénétrer dans une demeure dont tant de motifs t'interdisaient l'approche. Écoute, petit père. Et puis qu'a-t-on dit à M. de la Posterolle? Que tu allais faire une comédie avec son mariage et son divorce? Est-ce croyable? Après cette gronderie bien méritée, venons à des sujets plus riants. J'ai été bien touché de tes intentions pour ma dot. Avec les émoluments de Gaston, nous serons de vrais seigneurs. Mais quel dommage que ton idée de vie en commun ne soit pas pratique. Ce serait délicieux, nous aimant comme nous nous aimons. Seulement, mille choses auxquelles tu n'as pas songé s'opposent à cette réunion. Mon Dieu, la vie n'est-elle pas agitée de mille privations et contrariances? Toi, toujours au milieu de nous, comment ferait maman pour me voir sans être à chaque instant exposée à te rencontrer? Et ces rencontres ne vous seraient pas plus agréables qu'elles ne seraient convenables aux yeux du monde, même des domestiques? Pareillement, pour cousin, obligé de s'abstenir de toute visite, à moins de te forcer à remonter chez toi, sitôt qu'il paraîtrait. Et sans parler de mes sentiments personnels, Gaston est destiné à voir beaucoup, monsieur la Posterolle. C'est à lui que nous devons l'avancement, le mariage. Et quand il va passer conseiller d'État, et que maman et lui habiteront Paris avec Ninette, nous serons constamment les uns chez les autres. Mon père aimé, ton rêve était un rêve. Souffle dessus, n'y pense plus et console-toi en te disant que tes filles te verront tout de même beaucoup. Pas seulement les deux dimanches, l'un comme l'ordonnait la loi. Bien entendu, Gaston ne sait rien de ton projet. Il aurait eu trop de peine à dire non. Si reconnaissant de toutes tes bontés et m'ayant chargé de te demander un petit service en surcroît, il s'agirait de savoir le prix des perles pour la corbeille. Je voudrais trois rangs fermés par un rubis. « Vois, cher père, cherche, informe-toi. Tu trouveras à la fin de cette lettre une liste de plusieurs autres petites commissions. Mais je m'excuse à peine, habitué à être gâté par le meilleur et le plus tendre papa. » Il lut mal les dernières lignes, confuses sous les larmes qui lui brouillaient les yeux. « Pauvre petite, ce n'était pas d'elle, cette lettre sans cœur aux sentences morales. On la lui avait dictée, on lui avait tenu la main. Les dernières roses, assises à son pupitre de soie bleue, il voyait le sourire traître de Madame Lapostérolle. Il entendait sa voix sèche, commentant et corrigeant. Nom de Dieu, oui, une belle pièce à faire avec son histoire. Une pièce où pleureraient tous les pères, peut-être aussi quelques mamans, et qui s'appellerait le divorce du père Goriot. Je ne sais pas, monsieur, je vais voir. Fagan ne pouvait s'empêcher d'admirer l'imperturbable aplomb du domestique qui n'osait affirmer que son maître était là, alors que de l'entrée, dans l'écroulement de toutes les notes d'un pianoforte, s'entendait la voix, l'inoubliable voix du conseiller de Malville, hurlant, jappant, miaulant, hennissant la dernière partition de son musicien bien-aimé. L'homme revint et dit, impassible, dans le fracas musical qui faisait grelotter les vitraux de l'antichambre, « Si monsieur veut se donner la peine, le conseiller Garin de Melville, assis au clavier, tourna vers l'arrivant une longue figure nerveuse, sans âge, comme toutes celles dont la douleur a creusé et travaillé l'empreinte, des yeux déteints, une bouche que Wagner en ce moment ouvrait jusqu'à fond, tordu et noir, dans un désordre comparable à celui de ce grand cabinet de travail où les partitions de musique et les livres de droit s'effondraient par piles sur tous les meubles encombrants et poudreux à ne savoir comment circuler. Régis, mon ami, écoutez-moi ça. Le deuxième acte de Tristan et Iseult, la scène d'amour, Isolde de Gélibte. Assis sur un tas de livres, Fagan subissait résigné cette douche harmonique, sachant que rien n'empêcherait le maniaque d'aller jusqu'au bout du morceau, interrompu à toute mesure de cris d'extase, de voluptueuses pâmoisons. La piqûre, mon cher, la piqûre de morphine qui grise et qui berce, Endlich, Endlich. Enfin, quand Iseult et Tristan, épuisés, eurent dénoué leur étreinte, le magistrat mélomane, pivotant sur son tabouret, demanda à Régis des nouvelles de ses travaux, de sa santé. « Pas très bonne, hein? Oh oui, je vois ça. La vie de garçon, la vie d'artiste. Mais pourquoi n'avoir pas imité votre femme? Elle s'est remariée, elle, la Martine. Oh, madame, une qu'il tripote, son Wagner. » À propos, et vos filles? Parlez-moi donc de vos filles. Justement, monsieur le conseiller, sa grande allait se marier, entrer dans une famille de magistrats, les Rémory, et il avait compté que monsieur de Malville le renseignerait sur l'honorabilité de ces gens-là. Le conseiller fit claquer sa longue lèvre rase. « Honorable, le Rémorio, oui, si vous voulez. Mais magistrat nouvelle couche, n'ayant passé par aucune hiérarchie, enfin, ceux de nos présidents qui portent la barbe, quand monsieur le premier, arrivé dans les mêmes conditions, a fait couper la sienne par respect pour la maison. Vous le voyez maintenant, votre Rémorio, si le fils ressemble au père... » Ici, un tableau de la cour de Paris au point de vue des anciennes et nouvelles couches, tellement compendieux et détaillé que Fagan, déjà mal en train, un peu fiévreux, se fut brusquement retiré, sans une question qui lui tremblait aux lèvres, vrai post-scriptum de sa visite et qu'il parvint à placer presque en partant. Il s'agissait d'une certaine affaire. Hulin, oui, c'était bien cela, Hulin. Un jugement de séparation que le conseiller se rappelait, peut-être. Si je me rappelle, au Hulin du Havre, un alto de premier ordre, l'homme de France qui connaissait le mieux son Bach. Il mord de moi, Wagner, pourtant il m'avait bien promis de venir cette année à Bayreuth, le pauvre diable. Mais quoi donc, lui est-il arrivé? Il est mort, tout simplement. Mort? Et depuis quand? Bégaya la voix de Fagan, tout à coup descendue aux cordes graves. Bon, un mois à peu près. Il m'écrivait le 4 au matin et se tuait le soir du même jour dans son lit avec un revolver d'ordonnance. Oh, un passionné, un délirant de la bourse, celui-là. Il ramenait à son tic le conseiller, tordant la bouche, la prunelle renversée, se reprit à miauler Isole de Guilibté, pendant que Régis, ébloui, assommé, gagnait la porte en butant contre les partitions et les dictionnaires. Mort, alors tout s'expliquait. Le départ de Pauline est bien réellement pour le Havre, son absence nécessitée par le règlement de la succession. Quelques mois d'un deuil de convenance et cette adorable femme pourrait devenir la sienne. Plus rien ne s'y opposait. La jalousie de Rose, ou un enfantillage dont de bons baisers, un bracelet de plus dans la corbeille aurait facilement raison. Mort. Mort, mais est-ce possible que d'un mot si noir puisse jaillir une telle joie? Il délirait, parlait tout haut, et en sortant de chez le conseiller, descendant la rue des Saints-Pères vers les quais. Ce n'est donc rien que l'âge et les dents qui manquent et les tempes éclaircies. 20 ans auparavant, il ne marchait pas avec plus d'allégresse en quittant sa fiancée le jour où les parents lui avaient dit: Elle veut bien, et nous aussi. Le ciel ne lui paraissait pas plus beau alors qu'en cette fin de journée d'avril, rose et grise au trottoir mouillé, au premier chant d'oiseaux, aux premières cendres vertes sur les arbres des Tuileries. En tout son être aussi montait la poussée printanière, mais brusque, avec des coups de cœur, une oppression dont il cherchait la cause depuis quelques jours, et qui venait sans doute de l'air plus tiède, du renouveau plus proche, surtout de l'inespéré bonheur maintenant en perspective. Déjà, il voyait les larges yeux bleus se noyer de tendresse pour un aveu et la robe qu'elle aurait ce soir-là. Il prenait le thé dans le petit salon avec le sentiment intime et rassuré qu'il était chez lui, qu'il ne s'en irait plus. Et de ces jolis rêves qu'il faisait en marchant, tant de joie se reflétait sur sa figure qu'à deux ou trois reprises il crut s'apercevoir qu'on le remarquait, et que son sourire au passage en éveillait d'autres. Arrêté à une vitrine rue de la Paix, moins pour regarder les bijoux que pour songer à son aise, pardon, cher maître, à deux voix, l'une robuste, l'autre féminine, le fit se retourner vivement. Il avait devant lui un ménage de comédiens, les Couvertchelles mariés depuis 20 ans, légendaires sur le boulevard par leur tendresse et leur admiration réciproque. La femme engagée au vaudeville venait d'être malade 2 ans, oubliée et remplacée à son théâtre. Et la façon dont le mari, qui était un rôle pour elle à De Fagan, parlait de sa beauté, de son génie, les regards d'adoration, d'illusion qui coulaient vers ce pauvre visage meurtri, stigmatisé, dont les yeux lui disaient si doucement merci, avec le double orgueil reconnaissant de la femme et de l'artiste. Oh, il ne pouvait se voir rien de plus touchant. Le rôle accordé, un autre promis au mari, Fagan les regardait s'en aller d'un même pas joyeux, non comme un couple chic, séparés, et les bras ballants, mais bras dessous, bien crochés, bien serrés l'un contre l'autre. On sentait que la mort seule pouvait les découpler. Et c'étaient des comédiens, de ces âmes futiles et vaniteuses, dont tant de fois il avait raillé la sottise et l'enfantillage. Oui, chez d'humbles cabots, c'est là qu'il trouvait le mariage rêvé, idéal. Ah, si Pauline voulait, que de belles années à vivre ainsi, tous deux, unis, en dépit de la vie et du monde. Monsieur n'est pas malade? Ce fut le premier mot d'Antime devant l'étrange physionomie de son maître, rentrant le soir au lointain logis. Non, 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 pas du tout malade. Seulement toujours cette ardeur fébrile, cette chaude et surabondante expansion de vie gonflant sa poitrine trop étroite. Et voilà qu'en allant se mettre à table, ils voient la nappe, les assiettes tournoyer devant leur blancheur. Ses oreilles tintent, il suffoque, veut s'approcher de la fenêtre pour l'ouvrir. Et le bruit sourd d'une chute appelle Antime, qui trouve son maître à terre comme foudroyé. Régis se réveilla dans son lit par un après-midi limpide et blond, sans pouvoir apprécier depuis combien de temps il subissait l'anéantissement dont il sentait à peine, anéantissement traversé de fièvre, de visions délirantes, d'horribles cauchemars rouges d'incendie et de sang versé, ou décolorés en des noyades, à même l'eau glauque, tiède ou glacée, selon la brûlure de ses membres. Deux images nettes dans la confusion de ses idées. Ses filles, tour à tour affectueuses et jolies, puis le visage dur, les yeux secs, le regardant souffrir et mourir, sans une petite main tendue, sans une goutte d'eau à sa soif. Enfin, il revenait au monde réel, clignotant un peu devant la longue barre de soleil qui dorait en écharpe le tapis clair de sa chambre au calme rangement, à la fenêtre entr'ouverte sous les rideaux tombés, et laissant voir derrière leur ramage des vols d'oiseaux, des mouvements de hautes branches. Tout près de la fenêtre, une femme assise, en noir, sévère, penchée vers le jour, les yeux sur son ouvrage. De son lit, Fagan ne voit qu'une nuque blanche, inclinée, une torsade à reflets fauves. Mais il a reconnu Pauline Hulin et Maurice lisant sur un tabouret à ses pieds. Après tant de visions agitantes et sinistres, celle-ci lui cause un tel enchantement qu'il craint de la voir s'effacer et s'évanouir comme les autres dans le vague de la fièvre. Il ferme les yeux, les rouvre et retrouve le même tableau, poudré d'un rayon filtrant sous les rideaux. Seulement, cette fois, Maurice a levé la tête, et le regard se croisant, se souriant, tout seul, sans béquille, l'enfant s'élance dans les bras de son ami. Pauline s'approche aussi, les mains ouvertes, et dans le rapide examen que fait Régis, il la revoit un peu pâlie, les contours du visage amincis en leur cadre de deuil, avec une expression nouvelle de tristesse sur la bonté et la loyauté des traits. Affaibli, il pleure, baise ses doigts. Mon ami, mon ami! Puis l'attirant, la voix baissée à cause de l'enfant tout près d'eux. Et libre, libre enfin! Mais elle, se dégageant. Oh non, Régis, pas ça! Ne parlons jamais de ça. Il est vrai que le drame tout récent motivait une pudeur, une réserve compréhensible. Et parlant tout de suite d'autre chose, il voulait savoir depuis quand son retour. Une semaine, vraiment? Toute une semaine près de lui, sans qu'il l'ait reconnu, pressenti dans le délire? Le soir de son arrivée, elle avait trouvé le pauvre Antime éperdu, à la recherche d'une garde. Et alors, se souvenant des heures passées par Régis auprès de son enfant, elle s'était elle-même installée, sœur de charité de l'écrivain, jusqu'à ce que Mademoiselle de Fagan, prévenue, vînt la remplacer. Ah oui, mes filles, mais où sont-elles donc, mes filles? Il s'animait, les joues brûlantes. Madame Hulin essaya de le calmer. Antime avait envoyé une dépêche dès les premiers jours. Mais c'était loin, la Corse. Peut-être la mer trop mauvaise, personne pour les accompagner. Puis qui sait, parmi les lettres arrivées pendant sa maladie, il se trouvait sans doute une réponse de ses filles. Et le courrier éparpillé sur le lit, deux petits billets au timbre de Corse, signés Ninette, furent lus tout haut par Madame Hulin au père impatient et trop faible pour pour les déchiffrer lui-même. Navrée, cette pauvre Nina, navrée dans sa première lettre de la subite maladie de son père, aussi du départ de l'escadre, mais gardant l'espoir que son père serait vite guéri et que l'escadre ne tarderait pas à revenir. Rose était à Bastia avec Cousin pour faire ses adieux au jeune Rémory, prêt à passer sur le continent. La seconde lettre annonçait comme prochaine l'arrivée à Paris de Rose et de Ninette accompagnées de monsieur et de madame Laposterolle, et aussitôt ces demoiselles accouraient voir leur cher petit père. Suivaient des recommandations hygiéniques, des conseils pour le frais du soir, la brume du jardin, l'emploi d'une certaine flanelle de mouflon avec l'adresse du fabricant. « C'est très gentil !» murmura de Fagan, qui écoutait en caressant la blonde tête soyeuse du petit Maurice. « C'est très gentil !»« Mais j'aurais eu le temps de mourir plusieurs fois, sans les voir !» Madame Hulin n'insista pas, de peur d'accroître une peine qu'elle sentait profonde, et le laissant seul avec l'enfant, elle passa dans la pièce à côté où des gestes énergiques d'Antime l'appelaient depuis un moment. Mademoiselle était là, une longue fille sèche à lunettes qui demandait des nouvelles de monsieur de Fagan. « De la part ?» interrogea mademoiselle Madame Hulin. L'anglaise répondit avec arrogance. « De la part de ses filles. » « Elles sont donc à Paris ?» « Probable !» Pauline baissa la voix, craignant que le père entendît. « Monsieur de Fagan va mieux, mais s'il apprenait par d'autres que par elle que ses filles sont à Paris, il y aurait de quoi le tuer. Vous pouvez le dire à ces demoiselles ?» La gouvernante toisa Pauline Hulin, qui lui répondit d'un clair regard, et faisant demi-tour sur ses souliers carrés, elle se retira sans un mot, sans un salut. Depuis 3 jours, les Laposterolle étaient installés dans un family du cours La Reine, en attendant le mariage de leur fille et la nomination du chef de famille au Conseil d'État. La première pensée de Rose, sitôt débarquée, fut pour son père. Elle eut couru vers lui tout de suite avec Ninette, sans les objections de la mère que cet empressement rendait jalouse. La maladie pouvait être contagieuse, surtout pour des personnes arrivées de loin, du bon air. Il faudrait voir, s'informer. Mais nous sommes informés, maman. Ça ne se gagne pas, une congestion pulmonaire. Alors, madame Laposterolle, pinçant majestueusement les lèvres, fit allusion à une certaine personne, que ses filles seraient exposées à rencontrer chez M. de Fagan, au mépris de toutes les convenances. Rose protesta. « Oh, Madame Hulin, oh non, c'est fini depuis longtemps. Je crois même qu'elle n'est plus à Paris. » Pour s'en assurer, la mère envoya Mademoiselle Boulevard beau séjour. Elle en revint si satisfaite que de loin, sur le cours La Reine, elle faisait des signes avec son ombrelle à ces dames qui l'attendaient au balcon du family. « Madame Hulin m'a reçue elle-même » dit-elle en triomphant. Et la mère, je savais bien que c'était pas fini. La jeune fille, touchée au cœur, répondit d'un ton d'indifférence. « Bon, bien, puisqu'il a cette dame pour le soigner, il n'a pas besoin de nous. » « D'autant qu'il va beaucoup mieux, » ajouta mademoiselle. Inquiète, Ninette demanda à sa sœur. « Nous n'irons donc pas le voir ?»« Non, toi, si tu veux. Non, non, pas moi. »« Mais tu as tort, » fit la petite, qui pensait à une foule d'intérêts dont la sœur aînée n'avait pas le moindre souci. Mais elle ne parvint pas à changer sa résolution. Des jours s'écoulèrent. Régis ne se levait pas encore, pourtant sa convalescence cédait de la douceur du printemps, de la force des premières sèves. Il commençait à recevoir quelques visites assis sur son lit. Mais le docteur lui défendant de parler, il passait de longues journées en partie de domino avec Maurice ou bien à écouter de belles lectures que lui faisait Pauline Hulin dans le demi-jour de la chambre, fraîche et reposée, lecture souvent accompagnée et rythmée du voluptueux roquement de quelques ramiers piétant sur le zinc de la fenêtre. Parfois, interrompant la partie ou la page commencée, le malade songeait tout haut, les sourcils froncés. Mais enfin, qu'y a-t-il donc? Pourquoi ne m'écrivent-elles plus? Le souvenir de ses filles le torturait. Mais quelques mots de son ami, de vagues explications, que j'étais un peu au hasard, dissipaient vite ses inquiétudes, moins par les prétextes qu'elle inventait, que par la caresse de sa voix et de ses yeux, au charme correspondant. Depuis qu'ils se connaissaient, jamais il n'avait été à ce point séduit, envoûté. Quoique Pauline ne fît rien pour cela, au contraire, dégageant ses mains dès qu'il voulait les prendre, évitant leurs anciennes conversations sur la passion et le mariage, surtout la moindre allusion aux derniers événements, la mort du Lin, son voyage, toute chose de Régis s'inquiétait sans oser savoir. Un jour, cependant, qu'ils étaient seuls, elle en train de broder près de la fenêtre ouverte, penchée à chaque instant sur le jardin que la joie de l'enfant remplissait de galopades et de cris, Fagorne de son lit soupira. « Ah, ce jardin! Quand je suis revenu de Corse, quelle émotion de le retrouver désert !» Et comme elle ne répondait pas, « Mais pourquoi ne m'avoir pas prévenu d'une ligne, d'un mot ?»« Bon, j'étais parti si bouleversé. » Madame Hurlin parlait devant elle sans détourner les yeux. Cette dépêche de mon beau-père m'avait tellement saisi. Hulin va mourir, venez vite. D'abord, je ne pouvais y croire, je pensais à quelque piège. Aussi, pendant que j'allais seul au Havre, Annette emmenait l'enfant chez elle, au fond des Vosges. Pourtant, la dépêche n'avait pas menti. Il était mort quand j'arrivais. Jamais encore elle n'en avait tant dit. Mais ce qu'il tenait surtout à apprendre, pourquoi son mari était revenu chez elle après l'horrible scène, voilà ce dont elle ne soufflait mot. Et lui, traversé de soupçons, d'idées bizarres, se contentait de demander, embarrassé de sa question, « Mais pourquoi s'est-il tué, savez-vous ?» Elle, avec effort, « Non, je ne sais pas. » Peut-être là, de cette vie de haine, de l'impasse où nous nous trouvions enfermés. Ah, malheureux !» Fagan murmura, les lèvres amincies, « Comme vous en parlez, avec pitié. Est-ce donc que vous l'aimiez encore ?» Pauline, toujours sans le regarder, « Non, non, croyez-vous qu'il serait mort si je l'avais encore aimé ? Non, 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 mais... Le voir là, sur ce lit, la bouche toute noire de poudre, lorsque 2 jours avant. 2 jours avant. Sans finir sa phrase, elle s'était levée, penchée 1 minute vers les jeux du petit. Et le père, le pauvre père, dit-elle en se rasseyant. Si vous l'aviez vu devant ce lit de mort, devant ce qu'avait été son fils, vous vous seriez apitoyé autant que moi. Ces quelques jours au Havre, je les ai passés auprès de lui, sans le quitter, sans prendre même le temps d'une lettre. D'ailleurs, je ne vous savais pas de retour, et puis... Elle regarda dehors encore une fois. « Tiens, je ne vois plus Maurice. » Un timbre sonna dans l'escalier, annonçant une visite pour Fagan. Madame Hulin, en pareil cas, passait dans une autre pièce pour éviter tout commentaire sur la familiarité de sa présence. Elle se préparait à disparaître, ramassant à la hâte les menus objets de sa corbeille, mais il lui fit signe. « Non, restez !» La conversation l'intéressait trop, il voulait aller jusqu'au bout. Une porte qui bat, des pas légers qui se précipitent, et dans la chambre ouverte, violemment, Maurice annonce d'un cri de triomphe. Les voilà! Voilà Rose et Ninette! Il les a vus par le vitrage sonner à la porte d'entrée. Et tout heureux, autant pour son propre compte que de la joie qu'il apporte à Régis, l'enfant bat des mains, jette un baiser à sa mère et s'élance au devant de Ninette, qui paraît la première, la tête haute, la voilette au menton, écartant le petit d'un geste indifférent et distrait. « C'est nous, père !» Elle s'est arrêtée au milieu de la pièce, dévisageant Madame Hulin comme si elle ne s'y attendait pas à la trouver là. « Mes filles, mes filles !» crie Fagan, bouleversé, les bras ouverts. Mais Rose, qui vient d'entrer, reste immobile, en arrêt comme sa sœur devant la même apparition. Il s'émeut. « Eh bien, mes enfants, qu'y a-t-il ? » « Il y a mon père. » C'est la grande Rose qui parle, une main sur l'épaule de la petite sœur, l'autre tendue d'un geste de mélodrame, vibrante et convenue, comme le trémolo de sa voix. « Il y a que nous ne resterons pas une minute de plus ici, Ninette et moi, si tu n'ordonnes pas à cette femme de sortir. » Prenant son petit garçon, déjà réfugié dans ses jupes, Pauline Hulin allait l'emmener, mais Fagan la retint vivement par le bras et dressé sur son lit. « Sortir, vous, la dévouée, l'infatigable, vous qui m'avez soigné, sauvé, quand j'étais abandonné de tous. Oh, c'est elles qui s'en iront plus tôt, les mauvaises filles, elles qui m'auraient laissé mourir, sans un mot, sans un regard. » Pauline essaya de l'interrompre. « Oui, je sais, vous les défendez toujours. L'âge, la faiblesse, les conseils de ces gueuses là-bas. Je l'ai cru longtemps, mais c'est fini. De méchantes filles, je vous dis, des filles sans pitié. Ah, ce qu'elles m'ont fait. Les tas de coups de couteau que j'ai reçus d'elles en plein cœur. » Puis, brusquement, redevenu tendre, l'expression de ses yeux, de sa voix transformée. « Rose, ma grande, je t'en prie, demande pardon à l'honnête femme que tu viens d'outrager si injustement. Fais cela, ma Rose. » Madame Hulin protesta dignement, fièrement, mais lui, « Si, 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 il faut, je le veux. Ce sont mes enfants, elles doivent m'obéir. Tu entends, Rose, Ninette, je t'ordonne. » L'hésitation de l'aînée se devinait à l'oscillation de son long corps frêle. Mais la jalousie l'emporta. « Non, non, pas cela, jamais. »« Et toi, Ninette, ma chérie ? » ?»« Oh, moi, comme ma sœur. » Alors il éclata. « Allez-vous-en, méchante ingrate. Allez-vous-en, vilaine fille, que je ne vous revoie plus jamais. » Je suis divorcé d'avec ma femme, je serai aussi d'avec mes enfants. Dites-le bien à votre mère, jamais plus, vous entendez, jamais plus. » Sa figure se ravinait de grandes rides, sa parole devenait rauque et retombant épuisée sur l'oreiller, la main de Pauline toujours dans les siennes. Il râla encore deux ou trois fois, jamais plus, pendant que Rose sortait en sanglots, suivi de Ninette, les yeux secs, la mine révoltée. Avenue de l'Observatoire, tout au fond, sous les marronniers en dôme, d'épaisse verdure, un après-midi de juin, Madame l'Apostérole battait d'un talon nerveux l'asphalte espacé de bancs où traînaient des loques désœuvrées, des songeries patibulaires. En mauve toute, depuis les bras jusqu'à l'ombrelle, et sur ce mauve, le blanc poudré de sa perruque d'aïeul, la dame paraissait peu sensible au flatteur étonnement du rapin ou de l'étudiant qui, avant d'entrer chez le maître d'armes voisin, se retournait pour voir cette vieille personne aux yeux d'une jeunesse si provocante à la démarche autoritaire et solide d'un commandant de bord sur sa passerelle. À chaque instant, elle regardait l'heure à la montre microscopique épanouie dans le cuir de son bracelet et rageuse mâchonnait. 5 heures, 5 heures 10, 5 heures 20. Se demandant combien elle allait encore attendre, quand Fagan se montra au bout de l'avenue, du pas lent et vacillant des premières sorties. Comme il refusait obstinément de voir ses filles depuis l'éclat de leur visite, son ex-épouse avait obtenu de lui ce rendez-vous pour régler certains détails du mariage de Rose. Et Pauline Hulin, toujours bonne et raisonnable, cherchant à le rapprocher de ses enfants, s'était décidée à l'accompagner jusqu'au Luxembourg, où Maurice et elle l'attendaient. Du plus loin que Madame Laposterolle l'aperçut, maigrie et pâle, sa fine moustache blonde presque toute blanchie, elle accourut au-devant de lui, soulignant d'un petit rire la cruauté de sa pensée. « Venez, mon ancien mari !» Et tout de même l'abordant avec des mines d'intérêt, ses chatteries doucereuses et frôleuses. Lui, songeant à ses abominables trahisons, jusqu'à la dernière, la plus cruelle, la brisure avec ses filles, il se sentait du mépris, de la colère, et aussi, parce qu'il était faible, de la crainte, comme en face du mauvais génie de son existence, quelque maléficieux kobold niché dans le fond de cette sombre allée d'arbres. « Bien cela d'être venu !» commença-t-elle, marchant près de lui, son pas mesuré sur le sien. Ne pouvant aller chez Fagan par convenance, ni Fagan chez elle, elle avait songé à leur vieille avenue pour régler des intérêts communs. Il l'interrompit vivement. « Pourquoi ne pas vous adresser à mon notaire ? Tout est entendu avec lui. Et j'ai bien reconnu là le gentilhomme que vous êtes. Mais ce n'était pas seulement d'argent qu'il s'agissait. Surtout de savoir comment ordonner le repas, le défilé, et où se signerait le contrat. Chez lui, chez elle, mêmes inconvénients des deux côtés. C'est pourquoi elle avait pensé aux Rémory, les parents du jeune homme. Cela lui convenait, bon. Alors autre chose maintenant, le mariage, bien entendu un mariage religieux, aurait lieu à la Madeleine. Rose, par-dessus tout, désirait entrer à l'église au bras de son père. « Elle sait ce qu'elle doit faire pour cela, » dit Fagan subitement en arrêt, le geste dictant et commandant. Les yeux de la dame clignèrent. « Une petite lettre d'excuse à Madame Hulin, je suppose. »« Oui, absolument. »« Bon, elle se décidera volontiers. » On y tient tant à ce bras de père célèbre. Ceci bien appuyé pour faire entendre que c'était une question de vanité et non d'affection. Et elle ajouta en souriant, « Moins favorisé que ma fille, je donnerai le bras au président Rémory. Ainsi nous serons là tous les deux ?» demanda Fagan stupéfait. « Dame, puisque nous marions notre enfant. » Ils marchèrent un instant, sans parler, puis il murmura. « Bizarre, tout de même. Et votre mari, et la pastorale ?» Son intonation restait ironique. « Ah, justement, la pastorale, je voulais vous en parler. Bien difficile de l'exclure, mon mari, le beau-père de Rose, et puis... C'est lui qui a fait le mariage. Avant d'entrer dans la magistrature, Gaston Rémory était attaché à son cabinet. Ne trouvez-vous pas qu'il doit figurer dans le cortège ? Oh, je n'y vois aucun inconvénient. » Et plongé tout à coup dans des réflexions infinies, Fagan la laissa ramager à côté de lui, agiter ses bracelets, son ombrelle, en célébrant la famille Rémory, le président, la présidente et ce délicieux Saint-Cyrien rôdant autour de Ninette. Encore un mariage qui chauffe, mon cher ami. Oh, une occasion de nouveaux rendez-vous sous nos grands arbres. Oh, je les aime, moi, ces grands arbres, et vous ? Il ne répondit pas, rêvant aux choses qu'elle évoquait. Une succession sans fin de ces lugubres rencontres, et tout au bout de ces larges allées, son ancienne femme, chaque fois vieillie et transformée de plus en plus chevrotante et méchante. Elle le réveilla par cette demande à l'improviste. « Et vous, mon petit Fagan, quand comptez-vous vous marier ? Plus rien de s'y oppose, j'imagine, à présent que M. Hulin est mort. » Il tressaillit, la scruta jusqu'au fond. « Ah, vous savez donc ? Bien des choses que vous ignorez, je parie. » Au frisson de sa bouche, à son regard en coin, il comprit qu'elle allait lui faire du mal, beaucoup de mal, mais une curiosité mauvaise l'excitait. « Quoi, voyons, qu'est-ce que j'ignore ? » « Mais, par exemple, pourquoi le mari de cette belle Pauline s'est tué ? Je suis sûr que vous ne vous en doutez pas. » « Eh bien, il s'est tué, oh, ce sont ses expressions mêmes, dans une lettre d'adieu à un ami. Il s'est tué parce qu'il ne pouvait survivre à un bonheur sans lendemain. Avez-vous compris ? Non, n'est-ce pas ? » Si bien compris ou cru comprendre, le malheureux Fagan, que pris d'une subite faiblesse, il s'assit sur le prochain banc. Bon, c'est tout naturel, une première sortie, on a les jambes un peu molles, faisait Madame Laposterolle empressée. Puis répondant au geste de Fagan qui lui montrait une place à son côté, non, non, merci, je préfère, dit la Parisienne d'une petite moue dégoûtée. Et debout, s'équilibrant à son élégante ombrelle, avec un balancement de tout le corps, elle continua. « Alors voici. Le moment approchait, comme vous savez, où l'enfant devait passer de par la loi dans les pattes brutales du mari, au grand désespoir de la mère. Subitement, Hulin, plus que jamais épris, se présente chez sa femme. Oh, ceci pendant notre voyage en Corse, et je vous retape à peu près ces paroles. Si vous consentez à ce que je désire, ma chère, je m'embarque, vous m'entendez plus parler de moi. En outre, je renonce par un acte laissé entre vos mains à tous mes droits légaux sur notre enfant. » Fagan bondit. « Mais c'est absurde, un acte pareil et sans valeur. Pas un tribunal au monde. Je sais. » Mais Madame Hulin ne savait pas, ni son mari non plus, probablement. Je tiens du conseiller de Malville. Bon, ah, voilà que je livre mon auteur. Oh, prit-il, l'histoire n'en aura que plus d'authenticité. Malville donc me disait que ces sortes d'engagements, ces conventions à l'amiable, se passent entre gens du monde aussi fréquemment qu'entre paysans, et qu'en définitive, dans ce pays où personne n'est censé ignorer la loi, bien peu en connaissent le premier mot. Donc, pour en revenir à nos Hulins, la malheureuse, s'épouvantant à l'idée de n'avoir plus son fils, consentit à ce que cet homme lui demandait ses droits de mari pour une nuit, et sacrifia la femme à la mère. C'est dur, mais avouez que les détails de cette nuit seraient intéressants pour des casuistes. Horreur de son mari, sans doute. Seulement, ce n'était plus son mari. Séparée de corps et de biens, elle-même vivait comme une veuve depuis 4 ou 5 ans. Depuis, c'est l'arrivée à l'âge où la femme de nos pays comprend l'amour et ne fait pas que le subir. Oh, l'empoisonneuse ! Avec quel art son venin se distillait ! Et comme elle en suivait les effets incisifs sur ce visage creusé, pâli, qui à tout autre eût inspiré de la pitié. Aussi, voyez, sa nuit lui a semblé si belle à ce mari en bonne fortune que, retourné au Havre, il n'a pas eu le courage de s'embarquer, préférant mourir plutôt que de survivre à cette voie sans lendemain, ainsi que le dit sa lettre à Malville. Fagan s'était dressé, grondant, entre ses dents serrées. « C'est égal pour un dépositaire de suprême confidence, le retient votre Malville. » Ça, oui, dit-elle avec son mauvais rire. On n'a qu'à lui jouer du Wagner, et il se livre du haut en bas. Quelques pas en silence, l'un contre l'autre, enfin, le voyant songeur. Allons, il faut se séparer. Elle lui prit la main. Les petites sont là, tout près, vous ne voulez pas les voir ? Il hésita, et d'un ton de colère, « Non, non, un autre jour !»« Parfait, alors à bientôt, mon petit Fagan !» Elle le quitta dans l'encombrement du carrefour, gagna, légère et joyeuse, le coin du boulevard de Port-Royal, où l'attendait un grand landau découvert, fleuri d'ombrelles éclatantes. « Toute seule ?» questionna Rose, désappointée de ne pas voir son père. « Dans la porte, tout est convenu, » répondit Madame Laposterolle du bout des lèvres. Elle prenait la main, large main en battoir, que lui tendait Mademoiselle pour remonter. « Ah, le brave garçon, il n'a pas de rancune. Il signe au contrat, il vient à la noce. »« Et ma dot ?» dit Ninette. « A-t-on parlé de ma dot ?» Entendu, oui, mais ce qui vaut mieux que tout, je lui ai rendu, je crois bien, son mariage impossible avec Madame Hulin. La petite eut un rire clair sous sa voilette. Oh, alors, si la concurrence est par terre. Et pendant que le landau s'ébranlait, Rose, sans prétexte à présent pour sa jalousie, murmurait, abandonnant sa longue taille, oh, ce pauvre papa. Lui, pendant ce temps, par les squares fleuris et verts où le couchant promenait comme un grand roseau de lumière blonde, allait retrouver Madame Hulin et son enfant au Luxembourg. En marchant, les yeux vers la haute grille du jardin, allongeant ses barreaux en longues ombres violettes indéfiniment, il songeait à l'ami qui l'attendait derrière cette barrière, si largement tendu, mais illusoire, un peu l'image des obstacles de leur destinée à tous deux. Il s'expliquait maintenant par quel scrupule cette charmante et délicate Pauline, qui paraissait l'aimer alors qu'elle n'était pas libre, se refusait brusquement une fois veuve et maîtresse de sa volonté. Scrupules exagérés, sans doute, qu'il saurait dissiper avec le temps, et l'assiduité de son amour. Là-dessus, il se hâtait en rayonnant, aspirait de tous ses sens subtils de convalescent cette journée tiède, les parfums variés des parterres, rafraîchis de légers panaches d'arrosage qui retombaient avec des bruits de source. Mais deux pas plus loin, des phrases de Madame Laposterolle lui revenaient. Le poison opérait, passait d'une veine à l'autre. Une nuit, toute une nuit au bras de cet homme. Sûrement, ça aurait dû être un sacrifice, puisqu'elle l'aimait, lui, Fagan. Elle l'aimait, c'était visible. En se donnant à un autre, elle mentait donc de toute son âme, de toute sa personne. Et cela volontairement, puisque l'homme n'avait plus aucun droit sur elle, que de fait, depuis des années, il n'était plus son mari. Plus son mari. Or, rien qu'avec ces trois mots que cette gueuse là-bas venait de lui injecter sous l'épiderme, comme elle avait trouvé moyen de le faire souffrir. Plus son mari, c'est-à-dire plus celui qui lui répugnait et qui révoltait en elle cœur et chair. Du nouveau, de l'inconnu dans ce lit d'austère veuvage, et selon la judicieuse remarque de Madame Laposterolle, juste à l'âge où la femme de nos contrées... Oh, les grands yeux bleus pâmés sous les caresses d'un autre, les blanches épaules d'un grain si pur, frissonnante, et comme moirée par le désir. Malgré lui, il se représentait cela, il se le représenterait toujours. Et son ami le savait bien. Elle savait que s'ils se mariaient, cette hantise douloureuse les poursuivrait tous deux, gênerait, souillerait leur bonheur. Oui, c'est Pauline qui avait raison. Et maintenant, il partageait tous ses scrupules. Pourtant, il hésitait encore à s'en expliquer avec elle. Car enfin, ce sentiment pouvait se modifier dans leurs deux âmes, s'atténuer au courant des jours, au contact assidu de leur tendresse, qui sait même si par une belle journée de renouveau comme celle-ci, la passion victorieuse n'emporterait pas tout, n'effacerait pas tout d'un grand élan de flamme saine et réparatrice. Il arrivait à la porte du Luxembourg, où l'avait amené lentement sa discutante et cruelle songerie. Avant d'entrer, il se retourna, et le poing tendu vers les allées de l'avenue, dont la sombre verdure laissait vaguement deviner les sveltes et voluptueuses figures de Carpeau, tenant le monde à bras levés, et résumant à elle quatre toutes, l'embûche féminine de la terre. « Vermine !» gronda le pauvre Fagor. « Tu t'y entends à faire saigner la chair de l'homme ?» Une petite main de garçonnet glissait dans la sienne, l'entraîna vers le jardin, comme si son amie, du banc très lointain où elle était assise, avait deviné ce qu'il souffrait et lui envoyait Maurice pour l'arracher à la cruauté de ses réflexions. « Dieu, que vous êtes pâle !» lui dit Madame Hulin quand il arriva près d'elle. Et tout en s'informant s'il n'avait pas eu froid, sa voix trahissait une inquiétude inexprimée, cette peur instinctive de la femme devant un danger qu'on lui cache et qu'elle devine. Qu'était-ce? Que venait-il d'apprendre qui lui torturait les traits à ce point? Si vous vous asseyez un moment, peut-être n'est-ce qu'un peu de fatigue. Non, marchons, au contraire, j'ai besoin de sentir votre bras sous le mien. Il s'aperçut qu'elle tremblait aussi, mal à l'aise et troublée que lui. Fallait-il, malgré sa résolution de tout à l'heure, s'expliquer franchement et tout de suite, délier cette incertitude qui leur étreignait le cœur? L'enfant courant devant eux, ils avaient suivi machinalement la terrasse de gauche. Celle de droite, à cette heure, débordant de promeneurs jusque sur les balustres, à cause de la musique dont les accords leur arrivaient, brisés, entrecoupés à travers les feuilles, avec les cris aigus des enfants, des hirondelles, cette vie frénétique et tourbillonnante des petits qui s'exaspèrent à mesure que la lumière s'en va. Et la promenade lui semblait si douce dans l'accalmie de cette fin de jour, la femme à côté de lui, si fraîche sous son deuil, le teint limpide comme celui de son enfant, que Fagan n'eut pas le courage de troubler ses harmonies reposantes et se contenta de raconter l'entrevue, ce qui regardait du moins le mariage de sa fille. « Ah, mon ami, comme vous aviez raison, quel méli-mélo que le divorce et les bizarres combinaisons qu'il amène. Rose se mariera dans quelques jours ?» Et son mariage est tout ce qu'il y a de plus régulier. Mais, ses parents étant divorcés, voici l'étrange spectacle que la noce présentera. Et il s'amusait à détailler le cortège. Lui en tête, le père menant la mariée. Derrière eux, Madame Laposterolle, la maman, mais ne portant plus le même nom que sa fille. Enfin, Laposterolle, l'homme de toutes les convenances, figurant aussi dans le défilé, s'y trouvant très bien à sa place. Vous représentez-vous ça, montant l'interminable escalier de la Madeleine, l'entrée de ça par le grand portail et toutes les flammes des cierges, toutes les ondes de l'orgue pour accueillir cette cacophonie. Oh, si par Henri savait rire encore. Lui, Fagor, ne riait pas. Blessé dans son amour paternel, ses filles définitivement perdues. Et comme Pauline essayait de protester une fois de plus en leur faveur, Régis eut un sourire rapide et grimaçant, désillusionné jusqu'aux larmes. « Non, non, mon ami, vous vous trompez. Mes enfants ne sont plus à moi. Cette méchante femme les a accaparés. Mon avocat me l'avait bien dit. Ça a été un travail de fourmi, de taré, lentement, par petits coups et jour à jour. Et dire que jusqu'à la fin de ma vie, je suis lié à cette créature, qu'elle me lâchera jamais. Après le mariage de Rose, nous nous retrouverons au mariage de Ninette. Et plus tard, devenus grands-parents, nous nous rencontrerons à des baptêmes. Je l'aurai pour commère, vous verrez, une commère qui apprendra à mes petits-enfants à me détester, ainsi qu'elle l'a appris à mes filles. Ah, le divorce, ce tranchement du lien, que je célébrais comme une délivrance, vous rappelez-vous, dont j'étais si joyeux, si fier. Mais quand on a des enfants, le divorce n'est même pas une solution. Madame Hulin secoua doucement la tête. Avec des enfants, la séparation ne vaut guère mieux. Elle n'est qu'apparente, fictive. L'enfant reste toujours entre le père et la mère. Se fut exprimé de cette voix profonde, sombrée, dont elle se confessait ses vrais chagrins. Car son timbre habituel était de cristal vibrant et limpide, comme tout son être. Alors, quoi, que faire? Murmura Fagan. Après un long silence où mouraient les dernières mesures d'une marche de Lohengrin, il acheva tout haut le muet conciliabule de leurs deux pensées. Mais l'intégrité du mariage, tout le bonheur serait là. Se dire en choisissant sa femme, quand je mourrai, voici l'épaule où j'appuierai ma tête pour dormir, les lèvres qui fermeront mes yeux. Aussi je veux cette épaule très douce, très pure, ces lèvres fraîches, rien que pour moi. Bon, c'est ainsi que j'avais compris le mariage. Pauline soupira tristement. Ce fut sa seule réponse conforme et approbative. Ils venaient de descendre le large perron arrondi de la terrasse, erraient autour du grand bassin, tout frissonnant sous le ciel rose et l'angoisse du soir qui tombait. Ce frisson les gagnait jusqu'à l'enfant qui ne courait plus, serré dans la robe noire de sa mère. Si nous rentrions, dit-elle au bout d'un instant, en voilà bien long pour une première journée dehors. Eh bien, rentrons, fit Régis sur le même ton découragé. À la sortie, dans le bruissement de la foule qui s'écoulait, il cherchait une voiture. Quant à quelques pas plus loin, il aperçut Madame Lapostérolle et ses filles, qui s'étaient sans doute attardées à la musique et remontaient dans leur landau. Les toilettes claquantes de ces dames, l'équipage un peu voyant, rassemblé des curieux dont Rose et Ninette paraissaient très fiers. Écartons-nous, dit tout bas Fagan à sa compagne. Avoir ces chéris là, tout près de lui, brillantes et pimpantes, et ne pouvoir les embrasser, cela lui faisait trop de mal. Et c'était bien une victime du divorce, ce pauvre homme, regardant ses filles, leur mère, sa vraie famille s'éloignait à toute vitesse dans ce landau plein de rires et de rubans clairs, tandis qu'il restait au bord du trottoir, incertain et vague, dans la nuit presque venue, avec cette femme et cet enfant, dont le grand deuil, qu'il accompagnait mais ne partageait pas, disait assez combien ils étaient, combien ils demeureraient probablement toujours étrangers les uns aux autres. 31 décembre 1891.